Je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de cette table ronde en accueillant Claudine Fouchereau. On voit là qu'il y a une diversité de démarches, de manières de faire, de méthodes, d'outils, de cadres pour financer tout ça. Comment ça se passe, Claudine? Je te laisserai te présenter. Et ensuite, à quel point tout ça est cadré? Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce que c'est l'État français? Est-ce que c'est l'Union européenne? Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Est-ce que c'est le Far West? Est-ce que chacun peut dire ce qu'il veut? Et je crois qu'il y a pas mal de discussions en cours au niveau de la Commission européenne autour du carbon farming. Est-ce que tu peux nous faire un petit décryptage et bien sûr te présenter avant?
Ouais, merci Edouard. Donc Claudine Fouchereau, je suis directrice du programme Agriculture et Forêt au sein d'ICAT, c'est l'Institut de l'économie pour le climat. Et on est à l'origine du label bas carbone qui est maintenant, comme ça a été rappelé, piloté par le ministère de la Transition écologique. Et effectivement, sur cette question de la rémunération carbone, on assiste là un peu à un foisonnement d'initiatives privées et publiques où tout le monde a un peu de mal à s'y retrouver. Mais ce qui se passe au niveau européen, je pense, peut être vraiment une opportunité en fait pour cadrer tout ça. Alors peut-être pour dire quelques mots de ce qui se passe au niveau européen, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais la Commission a décidé de créer un cadre de certification carbone pour le secteur des terres, mais aussi pour le stockage géologique. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre qui certifie le stockage carbone dans le secteur des terres pour pouvoir le rémunérer. Il y a une communication qui est sortie en décembre 2021 qui pose un peu les premières pierres de à quoi pourrait ressembler ce cadre de certification carbone, à quoi il pourra servir. L'objectif, là, c'est de travailler à fond dessus en 2022 avec un règlement qui est visé pour la fin 2022, avec notamment normalement un cadre à peu près opérationnel par la suite, même si ça me semble un peu ambitieux d'arriver à ce stade-là fin 2022. Mais en tout cas, là, ce cadre est vraiment en construction en ce moment au niveau européen. Sur ce sujet-là, je pense qu'en France, on a une petite longueur d'avance quand même avec le label bas carbone. Donc on est assez écouté, assez regardé au niveau européen. Et en fait, au niveau européen, la Commission européenne se pose à peu près exactement les mêmes questions qu'on s'est posées il y a 5-6 ans quand on a commencé à développer le label bas carbone, quoi. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de faire bénéficier l'Europe de l'expérience française avec ce label bas carbone. Et pour dire
ce qui est en train de se créer en France avec le label bas carbone pourrait être préfigurateur de ce qui demain sera déployé à l'échelle européenne et cadré au niveau européen.
Alors c'est un peu l'enjeu. C'est un peu dur à dire à ce stade-là. Il n'y a pas que le label bas carbone non plus au niveau européen. Enfin, il y a d'autres pays qui se sont dotés d'outils similaires. Il y a des labels privés aussi qui existent à l'international, etc. Ce que je peux dire, c'est que... Déjà, le fait que la Commission décide de créer un cadre de certification carbone, moi, je le vois vraiment comme une volonté d'aller vers de l'obligation de résultat. Enfin, la Cour des comptes européenne a montré que la PAC avait quand même eu assez peu d'impact sur le climat, que pour l'instant, on est quand même très basé sur de l'obligation de moyens, avec des cahiers des charges imposés à tout le monde, quel que soit le contexte pédoclimatique, quel que soit le pays, quel que soit la région, quel que soit le système de production, etc., que ça a quand même pour le moment assez peu d'impact, et que renverser un peu la tendance et passer plus à une logique d'obligation de résultat, où ce qu'on cherche, c'est évaluer l'impact en laissant une liberté en fait aux acteurs de choisir la façon d'atteindre ces résultats, me semble plutôt aller dans le bon sens. Maintenant, ça dépend à quoi ce cadre ressemblera. Ce qui me semble être si positif là, dans cette démarche européenne, c'est ce qu'on disait à l'instant. Enfin, ça foisonne un peu dans tous les sens sur ce sujet-là. Et moi, je vois un peu que ce futur cadre européen comme une opportunité de faire un peu le tri en fait, dans toutes les initiatives qui existent, qui ne se valent pas toutes, qui n'ont pas le même niveau de transparence, d'exigence, de périmètre, etc. Et en fait, ce que va faire l'Europe, la Commission, c'est de fixer un cap, fixer des règles communes, fixer un niveau d'exigence. Et il faudra s'aligner à ces exigences-là pour pouvoir perdurer. Là où, par contre, j'ai un peu plus... je suis moins optimiste, peut-être, c'est sur la question du périmètre là, qui est envisagé pour le moment au niveau européen. La Commission européenne, pour l'instant, est très focalisée séquestration carbone. Donc c'est censé être un outil, un cadre de certification carbone pour rémunérer la séquestration carbone, en oubliant totalement les réductions d'émissions, avec une logique On finance, on paye, on rémunère le stockage carbone. Par contre, on impose le concept de pollueur-payeur pour les réductions d'émissions. Sauf que ça a été rappelé, derrière, c'est soit les mêmes pratiques qui vont avoir un impact sur le stockage ou la réduction d'émissions, soit il y a des pratiques qui vont avoir un impact antagoniste en fait, sur le volet séquestration et réduction d'émissions. Quoi. Donc avoir deux dispositifs différents pour soit pousser les mêmes pratiques finalement sur le terrain ou alors pousser des pratiques qui vont avoir un effet finalement négatif sur un aspect qui n'avait pas, enfin sur les émissions en voulant absolument stocker du carbone, c'est pour moi un non-sens. On essaye un peu de pousser ça au niveau européen. Pour l'instant, ça a pas. Enfin, pour ceux qui ont lu la communication de la Commission, ça reste encore très focalisé séquestration. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu. En tout cas, c'est là, c'est de faire élargir en fait le scope de ce futur outil. Sinon, ça n'aura aucun sens. Ça sera un outil pour le secteur forestier. Ça sera un outil pour financer peut-être un peu la plantation de haies, les zones humides. C'est voilà, mais ça sera pas un outil pour de transition pour le secteur agricole. Quoi. Donc sur le périmètre, voilà, petite inquiétude, et je pense qu'il y a vraiment un gros travail là de formation aussi, en fait, de vulgarisation de auprès de la Commission, des acteurs européens. Petite crainte aussi que j'ai, c'est sur les questions d'intégrité environnementale. Pour le coup, la Commission là met bien en avant le fait qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie, qu'il faut aussi prendre en compte les enjeux biodives, qualité de l'eau. Le retour d'expérience qu'on a avec le label bas carbone, c'est que c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Prendre en compte les co-bénéfices, prendre en compte les impacts sur la biodive, sur la qualité de l'eau, c'est pas si simple. On peut développer une batterie d'indicateurs, mais sans consensus sur la métrique, qui peuvent coûter cher. On voit aussi la façon dont sont calculées les réductions d'émissions peuvent en fait impacter le type de pratique qu'on pousse. Et par exemple, si on regarde les tonnes de CO2 par hectare ou par tonne de produit par litre de lait, et ben en fait, on ne pousse pas forcément les mêmes pratiques sur le terrain. Quoi. Donc il y a vraiment plein de façons de prendre en compte les co-bénéfices, les enjeux biodives, etc. Et je n'ai pas vraiment de remède miracle là-dessus. Mais l'expérience, en tout cas, du label bas carbone montre que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Quoi. Qu'il y a vraiment un travail encore à faire là-dessus. Et peut-être le dernier point que je voulais souligner, c'est la question de, en fait, à quoi sert un cadre de certification carbone. Et si, comme ça peut être parfois assez présent dans les esprits, si vraiment on se dit que créer un cadre de certification carbone, ça sert à générer du crédit pour aller chercher une nouvelle source de financement sur les marchés volontaires ou de conformité, je pense que c'est vraiment une erreur. C'est beaucoup d'efforts pour un financement qui restera quand même assez marginal. Et nous, ce qu'on pousse, c'est vraiment de voir en fait les quêtes de certification carbone comme un outil, comme une taxonomie en fait, comme un outil qui permet de dire, bah voilà, ces projets-là vont dans le bon sens, ont un impact. Cet impact a été calculé, a été vérifié, et il peut permettre. C'est vraiment des outils pour flécher en fait des financements qui cherchent à avoir de l'impact, mais tout type de financement, privé comme public. Et les crédits carbone, la compensation, ça peut être une source de financement, donc ça serait dommage de se priver, mais ça restera marginal. Quoi. Et donc maintenant, toute la question, c'est comment on coordonne les différentes sources de financement. Quel sera le rôle de la PAC demain pour financer ces projets bas carbone? Est-ce que c'est pour gérer le risque, les coûts de transaction? Quel sera le rôle des filières pour financer ces projets? Quel sera le rôle des entreprises hors chaîne de valeur pour financer ces projets-là, quoi? Et ça, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse.
Oui, c'est hyper intéressant. En fait, si on synthétise, on a jusqu'ici un foisonnement d'approches, un foisonnement de méthodes pour quantifier différents impacts ou les évaluer, les qualifier. On se rend compte qu'on est sans doute plus mûr sur le carbone que sur le reste. Le cadrage de la Commission, si je comprends bien, c'est surtout pour cadrer ce qui pourra être éligible à un financement crédit carbone, mais elle ne va peut-être pas se positionner sur le reste. Et le dernier élément, c'est les cadres de certification, surtout pour assurer. Les cadres de certification sont peut-être là surtout pour valider, labelliser une méthode en disant cette méthode, ok, elle fait référence pour mesurer la performance climatique d'une exploitation agricole. Ensuite, faites-en ce que vous voulez, que ce soit des crédits ou autre. Mais tout le travail de terrain dont on a parlé là reste absolument nécessaire pour innover et créer ce modèle économique. Hein, tu l'as rappelé, le crédit carbone, a priori, ne financera pas la part majeure de cette transition qui doit être massive. Quoi. D'où l'importance de soutenir toutes ces initiatives et cet effort global de recherche-innovation sur le terrain.
Oui, complètement. Et ça, je pense que c'est encore un sujet peu travaillé, enfin, en tout cas au niveau européen et même français. Hein. Enfin, comment en fait on, enfin, quelle transformation en fait on veut pousser, combien elle coûte, quels sont l'ensemble des coûts de cette transition et comment on met l'ensemble des acteurs autour de la table en fait pour faire bouger les choses quoi. Et en tout cas compter et là-dessus je pense que la commission a quand même ça, enfin quand elle met en avant le rôle futur de la PAC pour financer cette transition bas carbone, ça me rassure quand même quoi. Enfin je pense pas que la commission se dise c'est un acteur tout seul, ça va être les acteurs privés via la compensation qui va financer tout ça quoi. Mais une fois qu'on s'est dit qu'il faut que ça va coûter cher, que c'est compliqué, qu'il faut se coordonner pour y arriver, pour l'instant j'ai l'impression qu'on en est un peu là en fait et qu'il y a vraiment besoin de définir en fait qui fait quoi, qui prend quelle part dans cette transformation nécessaire.
Merci Claudine. Le sujet est très riche, on aura l'occasion, je ne sais pas si tu nous rejoins à l'apéro sur du stand du line pour en discuter plus avant. On arrive à la fin de cette table ronde, peut-être pour ouvrir la discussion avant de clore l'échange. Une petite mise en perspective de tout ce dont on se parle par rapport au contexte géopolitique actuel. On entre probablement en économie de guerre. On craint une inflation qui risque d'être massive. On a déjà une tension très importante sur l'accès aux matières premières. La tonne de blé est proche des 400 euros. Hein, on était à 150 il y a encore quelques mois. Donc, il pourrait y avoir un risque tout simplement de disponibilité des céréales, un risque d'inflation à gérer. Tu l'as rappelé, l'importance de la mobilisation des pouvoirs publics pour mettre en place et faire vivre ces cadres qui permettent de flécher des financements pour l'environnement. Si on rentre dans un monde où on n'est plus sûr de toucher sa tonne de blé, on ne veut pas trop monter les prix parce qu'il y a déjà beaucoup d'inflation et les pouvoirs publics sont occupés ailleurs à gérer de la diplomatie et de la guerre, quel risque ça peut faire peser sur le consentement global de la société à fournir cet effort pour financer cette transition? Je ne veux pas être pessimiste, mais on a vu que là, le cours de la tonne de carbone s'est effondré suite à l'invasion en Ukraine. Alors c'est la tonne sur les marchés réglementés. C'est lié à des effets de marché. Hein. Ce n'est pas uniquement lié au fait que le carbone ne vaudra plus rien, loin de là. Mais peut-être quelques mots là, à la liberté des intervenants. Voilà, est-ce qu'on peut déjà dire des choses? Est-ce qu'on n'en sait rien? Est-ce qu'il est évident qu'il faut poursuivre absolument l'effort de la transition? Il est d'autant plus important de le faire maintenant, mais est-ce qu'on a des craintes à avoir? Qu'est-ce qu'il faut anticiper? Comment on peut se mobiliser pour assurer que cet effort perdure?
Bon, je me lance, mais moi, déjà, je trouve que c'est super intéressant là, le commentaire de tout à l'heure pour dire que finalement, déjà maintenant, en fait, le consentement à payer des consommateurs, il n'est pas là en fait. C'est peut-être pas ça qui drive vraiment les changements ou les manques de changements à court terme. Donc je sais pas si ça entamera le consentement à payer parce que j'ai l'impression qu'il est déjà pas complètement à la hauteur. Mais par contre, est-ce que finalement ça peut pas être l'occasion, enfin cette crise, le fait qu'on dise qu'il faut être plus résilient, plus autonome. On sait qu'on pourra, on peut augmenter les productions, mais on ne pourra pas, à consommation constante, répondre en fait aux besoins. Et ça peut être, en tout cas, je l'espère, l'occasion de vraiment réfléchir en profondeur la façon dont on consomme, quoi, y compris la consommation alimentaire, y compris la consommation de viande, quoi. Et c'est peut-être la condition pour être plus résilient et autonome et faire face aux crises. Qui seront encore à venir.
Ouais, je peux que surenchérir. Je pense que le changement de modèle, c'est maintenant ou jamais. Les contraintes ne font qu'augmenter depuis des années. Donc là, on est au pied du mur. Donc c'est le moment jamais de se retourner et de faire différemment. Et dans un contexte comme ça, le collectif, la solidarité, je pense que c'est le moment ou jamais de reconstruire un nouveau modèle agricole. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on en est un aujourd'hui. Celui post-Seconde Guerre mondiale, il est dépassé, donc il faut le reconstruire, il faut se mettre autour de la table, il faut imaginer les solutions ensemble et serrer les coudes. Donc voilà, moi je suis convaincue que... Moi je suis optimiste, enfin oui, le contexte il est dramatique quand on le regarde comme ça, mais je le vois vraiment comme une opportunité, je pense qu'il n'y a pas le choix. Et mine de rien, ça fait quand même des années que tout un tas d'acteurs comme nous, comme vous, construisent des choses, des solutions. Il y a une vision qui est réelle, qui existe vraiment dans les champs. Il y a des acteurs engagés dans les filières, il y a des acteurs engagés dans les pouvoirs publics. Donc, avec cela, je pense qu'on peut construire quelque chose. Donc, pour moi, c'est ça l'enjeu 2022. Et ce n'est pas 2023, c'est 2022.
Oui, dit. Juste sur la partie sociétale, puisque je suis là pour ça, je pense que... Je vais aller contre mes intérêts, mais je pense qu'il ne faut pas rechercher une validation sociétale pour mettre en œuvre les transitions. Et avec le risque d'un veto sur la question des coûts, je vous rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, c'était parti de ça. Non pas parce qu'il y avait une hostilité en soi, mais parce qu'il y avait une mauvaise compréhension. Enfin, ça a été mal vendu, en clair, par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un élément qui me semble absolument essentiel. Et un autre élément essentiel, et c'est une de mes obsessions, c'est de dépolitiser et de désidéologiser tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas vous êtes pour la transition, donc vous êtes pour tel ou tel candidat ou pour telle ou telle orientation idéologique. On n'est plus à ce stade-là. Et donc peut-être, effectivement, alors, le mot opportunité est très malvenu par rapport à ce que l'on vit depuis 2 ans, et avec une accélération là dans le contexte géopolitique, mais effectivement, ce que l'on a pu remarquer lorsqu'on analyse un petit peu cette boîte noire qu'est la société française, c'est que, encore une fois, on n'est pas dans une vision idéologique au sein de la société, mais dans une vision extrêmement pragmatique. Si on prend des cas très concrets, au début, on se disait les gens ne vont jamais accepter les gestes barrières, les confinements. Ils l'ont accepté. Et même les sondages montraient qu'ils voulaient aller plus loin. Même chose sur les vaccins, je ne reviens pas sur cette idée. Mais on est l'un des pays les plus vaccinés au monde. Alors que le bruit ambiant n'était pas nécessairement dans ce sens-là. Et donc, je pense que, ces transitions sont absolument indispensables. Et deux... il faut vraiment faire en sorte qu'on n'entre pas dans le débat idéologique, et pourtant en France, dans l'espace public, on adore ça, sur le vieux débat bio versus conventionnel, mais on commence à avoir le débat sobriété versus ou décroissance d'un côté versus croissance verte, sobriété versus optimisme technologique, etc. etc. Ça, c'est l'un des dangers qui nous pend au nez. Et ensuite, effectivement, d'un point de vue sociétal, ce qui se passe depuis 2 ans et qui s'accélère avec la crise de l'Ukraine, c'est sans doute le sentiment de vulnérabilité extrême et par rapport l'obsession, on le voit dans les enquêtes, là c'est 90-95% sur relocalisation, autonomie, alors peut-être pas souveraineté alimentaire parce que ça a une connotation particulière. Les sondeurs vous disent souveraineté, c'est le roi. Donc les gens, ça ne leur parle pas, donc plutôt indépendance. Et donc, en l'occurrence, c'est quelque chose qui va s'accélérer sans doute avec ce qui se passe en Ukraine.
Merci Eddy. Peut-être un dernier mot de la partie agriculture, François ou Philippe, côté agricole.
Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vient de dire Eddy et au début aussi du propos, c'est qu'on a tout intérêt, et encore plus que jamais, à faire un devoir de pédagogie. D'expliquer ce qui se passe sur nos fermes, ce que l'on fait déjà. Et je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité à faire accepter cette transition si on explique ce que l'on fait tous les jours. Et justement, pour ne pas tomber dans l'idéologie et vraiment être dans le pragmatisme. Et c'est pour ça qu'on est un certain nombre aujourd'hui à communiquer sur nos pratiques. Et on voit que les lignes bougent, pas vite, mais elles peuvent peut-être bouger un petit peu plus vite maintenant, justement par rapport à ces différentes crises. Et on a un devoir, je pense, de pédagogie à tous les niveaux, aussi bien au niveau, nous, agriculteurs, mais aussi des transformateurs, tous les maillons de la chaîne, pour vraiment faire accepter toute cette évolution et aussi de rassurer par rapport à ce qu'on fait déjà.
Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, on a malheureusement, j'allais dire, pas le temps de prendre des questions de la salle, mais on peut tout à fait, on n'est pas limité dans le temps, c'est juste qu'on a déjà dépassé l'horaire. J'avais idéalement prévu 10 minutes d'échange, mais donc en fait, peut-être si ceux qui peuvent rester, s'il y a des questions, on peut en prendre quelques-unes. Et de toute façon, alors il y a un micro qui va arriver.
Merci, Patrick Oudry, Airbus. J'ai une question toute simple. La transition, on peut le voir comme quelque chose d'un peu graduel. Là, je n'ai pas forcément compris à travers les échanges si la transition, c'était un basculement, une grande marche d'escalier pour les agriculteurs, si c'était quelque chose sur une pente douce. Et ma première question, par exemple, qui est venue à l'esprit, c'est entre une agriculture raisonnée, conventionnelle mais raisonnée, une agriculture un peu premium, qui correspond à certains cahiers des charges. En fait, l'agriculture conventionnelle raisonnée, vous êtes déjà à mi-chemin, trois quarts chemin, sur les quelques critères carbone, biodiversité, eau. Vous tiquez le box sur déjà un ou deux critères. Enfin, on a un petit peu du mal à voir cette transition, en fait, si c'est un changement total ou si, pas à pas, on va y arriver et que peut-être l'enjeu, il est déjà de faire migrer la plupart des agriculteurs en conventionnel vers du conventionnel raisonné et puis après d'aller vers quelque chose encore plus de conservation ou si il faut tout de suite que tout le monde passe en conservation. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui, dans la transition, moi, m'interroge sur le
mouvement. La gradation de cette transition.
La gradation,
tout
exactement.
À fait, ouais. Alors, allez-y.
Alors la réponse que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'est justement d'expliquer ou de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Donc moi, je crois plus effectivement à améliorer les pratiques de façon graduelle et raisonnée, en prenant le temps. C'est quand même là où je pense qu'on aura le plus d'adhésion de la part du monde agricole, même s'il y a urgence et on ne lit pas et ainsi de suite, mais il faut de toute façon, et on l'a dit à plusieurs reprises, il faut de toute façon au départ l'adhésion de l'agriculteur. Donc je peux témoigner quand même que ça ne se fait pas comme ça et que je pense qu'on est aussi, on n'a pas culpabilisé non plus dans ce qu'on fait aujourd'hui, mais on y va tranquillement, et je dirais peut-être tranquillement et sûrement, en ayant de toute façon cette épée de Damoclès, mais malheureusement, tout ce qui se passe aujourd'hui montre qu'on ne peut pas non plus changer aussi vite qu'il le faudrait ou qu'on pourrait le souhaiter, parce qu'il y a des enjeux là tout de suite, donc de production, et donc ça va pas aussi vite. Donc moi, je serais plutôt dans le graduel. Peut-être que Anne ne partage pas forcément, mais je pense que c'est quand même ça c'est pas comme ça, quoi. Donc voilà.
Ouais, pour compléter, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ça, chez les pionniers, ça se fait par paliers. Parce qu'en réalité, la transition va nécessiter de s'adapter au vivant à chaque étape. Donc en fait, il n'y a pas une méthode, comme vous le dites très bien. Donc on va tester des choses. On va tester une première reconception du système avec des couverts végétaux, des choses encore assez maîtrisables. Ça, pendant 2-3 ans. Après, on va retenter, etc., etc. Après, selon les objectifs, l'ambition et aussi la capacité financière de l'agriculteur, et ça, c'est important, certains vont aller plus ou moins vite. Ce qu'on constate, malheureusement, c'est que ceux qui vont plus vite ont moins de risques aussi et moins de coûts. Ils y vont carrément, ils reconçoivent le système, mais faut pouvoir le faire. Et donc, il n'y en a pas beaucoup.
Le risque financier est plus dans un basculement total ou dans quelque chose de progressif ?
À nouveau, il n'y a pas de règle. Ce qu'on constate souvent, c'est quand même que ceux qui vont vite, ils vont mieux y arriver, mais le risque d'échec est plus grand. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse, mais parce qu'ils peuvent se rater complètement. Par contre, s'ils y arrivent, ça marche très, très bien.
Peut-être un petit complément, elle est très intéressante, cette question de en fait, combien on peut en emmener en même temps sur une transition à grande échelle. Chez AgroSolutions, on l'a expliqué, on a fait beaucoup de simulations. Une vraie transition bas carbone implique une transition plutôt vers ce qu'on qualifierait agriculture de régénération, mais à minima un allongement des rotations, une diversification des cultures et l'introduction de cultures à bas niveau d'intrants, par exemple du chanvre, par exemple du soja, par exemple du lin. Les agriculteurs pris isolément nous disent oui, c'est possible, mais si on veut faire ça à très grande échelle, ça veut dire simplement qu'il faut valoriser des filières de nouvelles cultures. Et là, ça se passe dans les territoires. Il faut des outils industriels de valorisation dans les territoires qui aujourd'hui n'existent pas. Et c'est le message qu'on porte souvent au pouvoir public, c'est de dire, vous savez, la transition, une véritable transition bas carbone de l'agriculture, c'est pas uniquement dans les fermes, c'est aussi une stratégie de réindustrialisation des territoires pour permettre la création de ces filières.
Moi, je voulais juste rajouter un tout petit élément. C'est que ce qu'il faut en parallèle, c'est mesurer les impacts de cette transition sur le bilan carbone en particulier, et que les méthodes sont quand même relativement récentes. On l'a vu, il y a un foisonnement de méthodes, et il y a encore aussi, en parallèle de cette transition, tout un calage méthodologique à mettre en œuvre pour arriver à mesurer les impacts de la transition.
Valérie Dam, oui, merci. Valérie Dam, Ouest France. Donc j'entends bien ce que vous dites. Donc effectivement, enfin, pour très bien connaître l'agriculture, c'est très compliqué, c'est long. Donc il y a des agriculteurs qui arrivent très bien, mais voilà, il faut être formé, il faut être accompagné, voilà, il faut pas prendre de risques, il faut pas perdre d'argent, donc c'est compliqué. Néanmoins, je vous pose la question, on est quand même avec une moyenne d'âge dans la démographie agricole qui est importante, on va avoir tout un tas d'agriculteurs qui vont perdre la retraite, et pour avoir discuté beaucoup en ce moment avec des plus jeunes agriculteurs qui s'installent, ma question est, est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'on ait une nouvelle génération qui arrive de jeunes agriculteurs issus de milieux agricoles, et de plus en plus d'installations des NIMA, donc des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, donc qui n'ont pas été formatés dans leur famille, etc., même les jeunes du milieu agricole me disent, nous, on est un peu quand même, on est différents de nos parents, on est en rupture. Est-ce que ça ne va pas provoquer une accélération de l'adoption de ça? Parce que même eux, dans leurs assiettes, ils mangent différemment. Ils ont des épouses qui ne sont pas forcément du milieu agricole, des amis qui ne sont pas forcément du milieu agricole. Je ne veux pas dire qu'il y a une rupture totale, mais voilà, je pense qu'ils ont... ils sont pour eux, c'est un mode de vie qui est... Enfin, ils comprennent les demandes. Ils en prennent et ils en laissent, comme vous le dites très bien. Voilà. Et je pense que ça, plus le fait qu'ils se rapprocheraient plus que leurs aînés des nouveaux installés qui ne viennent pas du milieu, est-ce que vous ne pensez pas que ça va faciliter quand même cette adoption ?
Oui, bah, moi, complètement. Enfin, clairement, on voit que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui part en retraite dans 10 ans de prendre des risques, donc il ne le fait pas. Donc c'est plutôt en effet la jeune génération qui peut en prendre. Après, leur situation financière, elle n'est pas forcément idéale non plus. C'est très compliqué de s'installer. Donc moi, ce que je peux voir, en tout cas, je ne suis pas sûre que j'en ferai pas une généralité, mais c'est aussi que ça a un impact en termes de type de ferme que ces jeunes vont faire, type de production. On va être sur des plus petites structures, beaucoup de communautés d'intérêt. De plus en plus, les jeunes s'installent à plusieurs parce qu'ils veulent aussi retrouver des vacances, des week-ends. Donc, c'est d'autres modèles qui sont aussi en train d'être imaginés par ces jeunes-là. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Hein. Il y a des jeunes qui reprennent des fermes, des grosses exploitations. Mais il y a aussi un peu cet impact-là. Donc, l'accélération de la transition, elle va être aussi multiforme, je pense, parce qu'on va voir émerger aussi des nouveaux modèles.
Non, peut-être là-dessus, il y a aussi besoin d'accompagner justement cette transition, quoi, parce que s'il y a la volonté d'aller vers des plus petites exploitations chez la nouvelle génération, mais qu'en fait, pour l'instant, l'agrandissement, enfin, on continue à faire de l'agrandissement avec des exploitations qui ont des actifs très importants et qui peuvent pas être repris en fait par des jeunes, on va avoir un problème, quoi. Donc vraiment, l'enjeu, c'est comment on accompagne en fait ce changement de génération, et ça va pas se faire, à mon avis, tout seul, quoi.
Puis encore le modèle économique. Hein. Moi, j'ai dans ma famille mon frère. Hein, pour, déjà, c'est un exemple personnel, mais qui apprend une petite ferme de production de vaches dans le Limousin. Quand c'est pas rentable, c'est extrêmement difficile. Donc, raccourcir, faire des petites exploitations, être jeune, faire différemment, quand l'ensemble du modèle économique n'a pas muté, bah, on s'en sort pas. Donc, là encore, la réponse, elle n'est pas que chez les agriculteurs, elle est dans toute la société.
Moi, je voudrais Philippe Hamelin, directeur de Biolane Solutions. Je voudrais quand même remettre l'urgence. Quand vous regardez quand même tous les rapports qui sont faits sur la lutte contre le réchauffement climatique, le secteur des transports, 2050, zéro. 2030, il doit réduire de 40%. Donc, je pense qu'on n'a pas conscience dans le milieu agricole, dans le milieu agroalimentaire, qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est 19% des émissions, c'est 80 millions de tonnes. Il faut qu'on réduise d'ici 2030 de 10 millions, 15 millions de tonnes. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde doit s'y mettre, que ce n'est pas simplement le consommateur qui va payer, on va lui demander son avis. Ce n'est pas son avis éclairé, hein, parce que c'est la même chose pour les voitures électriques. Hein. Si on n'avait pas incité, il n'aurait jamais... Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même un volontarisme et il y a une rapidité d'exécution qu'il va falloir que l'on prenne l'habitude. Et l'habitude de l'agriculture, c'était quand même un peu le temps long. Il va falloir qu'on accélère les choses. Voilà.